Scrivens O, Scrivens A.
Dans la précédente émission, le précédent podcast, Samantha Chuva, brésilienne, autrice, poétesse, animatrice d'ateliers d'écriture, était déjà mon invitée. Nous avions notamment évoqué la voix ainsi que le multilinguisme comme outil de création. Boîte de Pandora, son recueil de poésie, qui devrait sortir sous peu si ce n'est déjà fait. Mais aussi la revue Oito ou 80. Aujourd'hui, il sera de nouveau question de cette revue, mais aussi de deux fictions en cours d'écriture, de la richesse de ses ateliers où apprentis écrivains comme écrivains confirmés viennent enrichir leur palette de styles et processus créatifs.
Il t'est arrivé d'écrire de la fiction?
Oui, là j'en ai plusieurs projets. J'ai un projet, c'est un recueil des nouvelles, mais c'est de la fiction, c'est de la fantasy, inspiré des célébrations celtes. C'est quelque chose qui m'a traversé pendant longtemps ma vie. J'en ai fait de la danse irlandaise, qui m'est arrivée un peu comme ça aussi. C'est une musique qui me parle beaucoup. Donc sur ces 8 célébrations qu'on appelle les sabbats, les célébrations celtes, les 8 célébrations qui sont liées à la nature, au moment des changements de la nature, donc l'été, les solstices d'été, l'équinoxe, des choses comme ça. Et donc j'ai ce recueil qui est, je ne l'ai pas finalisé, mais qui est bien avancé. J'ai un autre projet, c'est les projets où je travaille en ces moments, c'est une autofiction. Donc c'est un roman, je voudrais faire un truc un peu plus léger. Donc c'est une fille qui part au Brésil et qui justement s'interroge comment écrire et tout ça, et elle écrit entre les deux langues, donc c'est pour ça une autofiction, parce que c'est très inspiré de ma vie, mais c'est quand même très fictionné.
Et justement, en termes de méthodologie, comment tu vas construire ta fiction? Est-ce que tu vas établir un schéma narratif en te disant là, il y a telle péripétie, là, telle autre péripétie, là, il y a un climax, puis une résolution.
Moi, je suis écrivaine très jardinière, on appelle. Donc, je ne suis pas vraiment une personne qui planifie énormément. Pour ces projets, c'était super parce que je me suis dit, j'ai une idée générale, c'est-à-dire, je savais que c'était, dans ma tête, je voudrais écrire un livre des Noël, mais ce n'est pas forcément ça. Je voudrais raconter un peu comment c'est Noël au Brésil, puisque c'est un Noël au chaud. En été, et briser justement avec les paradigmes qu'on a des Noël qui est toujours au froid. Toutes les références qu'on a, c'est au froid. Donc j'avais envie de parler de ça.
Là, tu évoques ton autofiction.
Oui, c'est ça. Et donc, l'idée initiale, c'était ça. L'idée, il y avait cette personnage que je savais qu'elle aurait rencontré quelqu'un. Et il y avait un peu ce questionnement sur l'écriture. Bon, non, ça même venu dans un deuxième moment. Mais je n'avais pas planifié, je ne savais pas la fin, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle allait faire, je n'avais pas trop des directions. Et je me suis donné une contrainte, c'était d'écrire 30 minutes par jour, tous les jours. Donc j'écrivais tous les jours entre 30 et 1 heure, 30 minutes et 1 heure par jour. Et je disais oui à mes personnages. Donc en fait, ils m'y proposaient des choses qui étaient pas du tout prévu, que je ne maîtrisais pas, mais j'ai dit, bon, vas-y, tu m'as proposé ça, et on y va. Donc, j'ai tout un premier jet, j'ai écrit des premiers jets super vite, en 3 mois, pardon, en suivant cette direction, cette directive plutôt, et c'était impressionnant parce que je me suis surprise à plusieurs moments. Je savais, par exemple, qu'il aurait à avoir un gala des Noëls parce que j'avais envie de faire un gros événement et tout. Mais je ne savais pas comment j'allais le faire, et finalement les livres il m'a proposé ça tout seul. C'est un peu comme si, d'un côté, l'écriture, elle est un peu autoréalisatrice. Genre, on commence à écrire, et c'est comme si l'histoire, elle existait déjà, même si on n'a aucune notion d'où on va. Et elle prédestine des choses, quelquefois.
Alors là, il y a quelque chose de l'ordre de la conscience, de l'inconscience, du subconscient, peut-être quelque chose de l'ordre de la magie. Comment, quel mot, toi, tu utiliserais pour expliquer ce processus ?
Ah là là. Et je pense que c'est un mélange, en fait, entre la confiance. Je pense que c'est ça, les mots, confiance. C'est faire confiance. C'est-à-dire que certainement, il y a quelque chose de l'inconscient, qui nous prépare à un avenir. Il y a une perception, donc pendant qu'on est en train d'écrire, on laisse les éléments, et l'amusement du fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, c'est justement de vouloir résoudre ces mystères qu'on a ouverts au début. Donc on a parlé des choses, il faut que ces choses accomplissent quelque part. C'est permettre d'être surpris par des choses. Donc là, quand j'ai fini ces manuscrits, ça m'a pris plus longtemps pour les relire que pour y écrire. Donc j'ai dit, je l'ai écrit en 3 mois. Ça m'a pris 3 mois pour les lire. Et 3 mois pour écrire, 3 mois pour lire. Et en fait, j'étais surprise, puisqu'à la fin, j'avais quand même conclu un truc et qui, je trouvais que c'était super intéressant et tout. Et en lisant, j'avais vu que j'avais laissé des pistes, que ça irait arriver, mais je n'avais pas vu ces pistes-là. Au contraire de tout le reste des choses que j'avais fait, c'est-à-dire qu'il avait des pistes, je savais qu'il a des pistes et j'ai essayé de les conclure à la fin. Il y a eu aussi cette surprise du fait qu'en fait la fin, elle était énormément cohérente avec d'autres moments de réflexion du personnage, des pistes qui étaient là et que moi j'avais pas vues. Donc mon inconscient l'a mis certainement des graines comme ça et moi j'avais pas vu et je l'ai vu à la relecture en tout cas.
Et tu as été émerveillée par cette découverte ?
Ah, j'étais surprise et en même temps, c'est très drôle, c'est surprenant d'écrire un manuscrit parce qu'à la fois, c'est nous et c'est pas nous. On écrit, mais il y a des moments quand on relit les trucs et on dit « mais waouh, j'ai écrit ça, c'est horrible » et « waouh, j'ai écrit ça, c'est génial ». Donc c'est très troublant, puisque pour moi, les moments d'écriture, quelquefois, je sais même pas si c'est moi qui ai écrit parce que je suis transportée tellement par un autre endroit, par un autre être, que je pense qu'il y a vraiment une personne qui vient et qui écrit pour moi et qui assume en fait cette skin, cette tête, comment je peux dire, cette masque d'écrivain en fait.
C'est pas forcément ce qu'entend Kant par la transcendance qui traverse l'écrivain et qui a quelque chose de l'ordre du divin quand l'artiste se met à créer, et en l'occurrence l'écrivain à écrire, quelque chose qui le dépasse.
C'est justement ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse à ces moments-là, principalement quand on est dans un flou des pensées ou d'une scène, et là je pense que c'est un peu comme tu as dit, l'inconscient qui prend cet élan. Et mais cet inconscient, il est porté par qui ou par quoi ? Peut-être par un être supérieur qu'on a dans notre inconscient, que ça fait partie de nous, je pense. Je ne pense pas qu'il... Je suis très spirituelle, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un ordre qu'on ne maîtrisait pas, mais qui est présent en nous et qu'on peut dialoguer, qu'on peut discuter. Donc il y a des moments... et ça, c'est très intéressant sur les processus d'écriture. On discutait tout à l'heure. Quand je suis quand je donne des ateliers d'écriture, soit quand j'anime des accompagnements en écriture, j'en parle souvent d'avoir des rituels d'écriture. Donc j'avais dit que j'ai ces rituels de la musique, la même musique toujours, qui m'aident à me mettre dans cet état d'esprit. Et en fait, je trouve que les rituels, c'est ça qui nous communique avec cet être supérieur qui existe en nous et qui va nous...
Qui te met en connexion.
En connexion avec l'écriture. Et j'ai dit aux gens, trouvez votre rituel d'écriture. Et quelquefois, mon rituel d'écriture, ça a été déjà d'écrire avec les divinités d'inspiration et de comprendre que j'ai des êtres divins, des esprits, je sais pas, de la création et de l'inspiration qui se connectent, qui discutent avec moi et qu'en fait, ils ont des noms, des prénoms, tu vois. Genre, je donne vraiment une image pour qu'ils puissent dialoguer. Et quelquefois, quand je suis bloquée, je dis, ah, mais s'il te plaît, aide-moi là. Me laisse pas toute seule.
Est-ce qu'il t'est arrivé de parler, de discuter avec d'autres écrivains de leur manière d'écrire ? Parce que la tienne est très particulière.
Un peu, mais je pense que chaque personne a une manière très très particulière. Je pense, par exemple, c'est pas une discussion, mais c'est un livre que j'ai lu, s'appelle... Je pense qu'en français, il s'appelle La Grande Magie. En anglais, en tout cas, il s'appelle Big Magic. Comme par magie, c'est quelque chose comme ça en français. Mais en anglais, ça s'appelle Big Magic. C'est un livre écrit par Elizabeth Gilbert. Et elle parle de la vie créative. Et elle parle vraiment de... Elle explique ses côtés de l'inspiration et tout. Et pourquoi on appelle quelqu'un des génies. Et en fait, elle fait un rebond en arrière où elle dit en fait qu'il est génie. Avant, c'était des divinités. Donc, on n'était pas des génies, on avait des génies dans la maison. Chaque personne avait un génie et ces génies qui étaient l'inspiration, en fait. Elle aussi, elle a un côté un peu rituel, un peu divinatoire, on va dire, dans ce sens-là. Même puisqu'elle raconte un peu son processus d'écriture, elle a dit qu'elle a fait un contrat de se marier avec l'écriture. Donc, et elle a écrit un contrat de mariage pour se marier avec l'écriture et elle la prend vraiment sérieusement. Donc... voilà, c'était une autre façon d'écrire.
Oui, une approche un peu à la Sophie Calle.
Oui, voilà, une approche un peu... j'ai besoin de ça et je veux ça pour ma vie. Parce que je pense que c'est différent d'avoir un besoin dans l'écriture et de dire, mais je m'y tiens et je vais le faire. Parce que quelquefois, c'est dur, on traverse beaucoup de choses dans l'écriture. C'est faire face. J'ai entendu cette phrase, je sais plus le nom de l'écrivain. Mais aussi, il a fait une interview, il a dit, en fait... écrire un livre, c'est faire face à 90% du temps à sa propre médiocrité. Donc voilà, il y a des moments que c'est très dur quand on lit les trucs, on déteste, donc d'accrocher, de continuer, de les faire vivre.
Et est-ce que du coup de passer à une autre langue, par exemple, tu n'es pas du tout satisfaite de ce que tu as écrit en français, tu vas essayer en portugais et là tu es satisfaite. Est-ce que ça peut arriver l'inverse aussi d'ailleurs?
C'est mon projet pour mon manuscrit. C'est-à-dire que ça m'a pris 3 mois parce que j'arrivais pas à l'écrire, à les lire. Il est en portugais. Il a plein de passages en français, mais il est en portugais. Et je me suis dit, ben, l'idée initiale c'était de les réécrire, faire une autre écriture en portugais encore. Et en fait, j'arrive pas. Et mon objectif en ce moment c'est de les passer, de les traduire en français pour réécrire déjà en français et voir qu'est-ce que ça se passe, voir qu'est-ce que ça change. Parce que souvent, j'aime plus dans une langue que l'autre. Souvent, j'aime bien la traduction en français, en fait, de passer par l'auto-traduction. C'est déjà une réécriture pour moi, donc je préfère cette version à la version originale. C'est pour ça que j'ai revu en arrière et j'ai retravaillé les textes en portugais à partir de la traduction que j'ai fait en français. Donc, là, mon projet, c'est ça. Genre, j'arrive plus à écrire en portugais ces textes-là. Il va passer pour une traduction en français et une réécriture en portugais à partir de la traduction. Donc, ça me vient comme ça, oui.
Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc, dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour.
A situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso.
Tu pourrais écrire un mémoire hein, sur,
oui, c'est clair.
sur ta méthodologie. Et j'imagine que c'est pas forcément ton master qui t'a appris ça. Tu t'es forgé cette méthode de travail toi-même.
Bah, moi, j'étais toujours très fascinée par des langues. Donc, moi, je parle français, mais je parle aussi anglais, espagnol. Je parle un peu de l'allemand, donc c'était vraiment quelque chose qui était présent en moi. Et je me suis rendu compte que l'écriture, c'était de toute façon une façon de m'y traduire. De m'y traduire dans ma propre langue, genre de m'organiser, de m'y comprendre. Donc il y a quelque chose qui vient de cette origine-là. Après, voilà, la compréhension de tout ça, en tout cas, ça a venu avec les masters parce que je l'ai mis à l'épreuve et j'ai compris un peu mon processus d'écriture. C'est aussi à ces moments-là que je me suis rendu compte que j'écrivais déjà dans d'autres langues, Donc j'avais des textes en anglais, j'avais des cahiers et des cahiers que j'écrivais déjà en français. Quand je commençais, j'habitais à Paris en 2010, c'était ma première année en France. Je fais un an d'études, pendant que je faisais mes études de journalisme, j'ai fait un an à Paris. Et pour m'entraîner en français, je me suis dit, bon, je vais écrire mon journal intime en français. Donc j'avais déjà une écriture qui s'est passée dans d'autres langues. L'anglais, pour moi, il était très présent comme ça. Je m'expliquais des choses, je parlais toute seule. On va pas dire que je suis folle, mais je parlais toute seule en anglais pour m'expliquer, pour comprendre des choses. Donc passer dans une autre langue, pour moi, c'était très naturel. J'ai appris l'anglais très jeune, j'avais 10 ans. Donc c'était très naturel, comme une auto-compréhension. Mais je l'ai compris très tard. Ces processus, je l'ai compris très tard.
En fait, de passer à une autre langue te permet de t'analyser toi-même, oui, plus facilement, plus aisément.
C'est une discussion, j'ai vraiment des dialogues et je discute dans une autre langue. Donc je pense qu'il y a un recul, on a une distance qu'on n'arrive peut-être pas à avoir, en tout cas pour moi en portugais, parce que je pense que quelquefois le portugais il est trop chargé émotionnellement et c'est pour ça que je n'arrive peut-être pas à me comprendre dans cette langue-là. Et du coup je passe par une autre langue pour me comprendre, notamment... Je parle toute seule en français aussi, et quelquefois je parle toute seule en portugais, et quelquefois, aujourd'hui, comme les français c'est une langue d'écriture et de travail, ces moments de compréhension, je les passe par l'anglais, puisqu'il n'y a pas comment je peux dire, c'est quoi les mots, genre il n'y a pas une... C'est moins sérieux peut-être l'anglais, ça me donne la place pour... Je ne veux pas écrire avec ça, je veux que me comprendre.
Oui, tu n'écris pas en anglais, tu ne fais que parler. Je fais bien la distinguo entre le verbe parler et le verbe écrire.
Oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est très rare. Ça m'arrive. Ça m'est arrivé, par exemple, pendant les Covid. Donc, notamment, j'étais en train de faire mon master. Et j'ai écrivé ces textes qui s'appellent Portugais. Donc, c'était un texte, un fragment... entre les Français et les Portugais, et que j'essaye de comprendre justement comment m'approprier de cette langue, comment m'autoriser à écrire en français. Et je faisais beaucoup d'allers-retours entre les Français et les Portugais. Et en fait, j'avais plus des places pour discuter avec moi-même. Et donc, je commençais à ce moment-là, j'écrivais en anglais à côté. Genre d'autres choses qui n'étaient pas liées à ces projets-là. Et dans ces projets, il y a deux textes qui sont en anglais quand même, deux fragments. C'est-à-dire que ça me manquait des langues, ça me manquait quelque chose, donc j'avais besoin de souffler ailleurs. Et ces deux langues, comme elles sont devenues, ces deux langues, je dis les portugais et les français, elles sont devenues des langues de travail, j'avais besoin d'une langue pas sérieuse. Et là, j'écrivais en anglais à ce moment-là. My eyes, they see the rise. They're envelopes to down. I drink up the new sun
like sweat drops. Est-ce que tu écris dans l'objectif de publier? D'abord, tu écris pour toi, je crois, mais est-ce que dans un second temps, tu écris pour finaliser un objet qui va être offert au monde à la lecture?
Ah bah oui. Dépendra, je l'ai écrit en sachant que je voulais le publier. Ces manuscrits dont je t'ai parlé d'autofiction qui il n'y a pas encore des titres, c'est pour ça que je ne l'ai pas donné. Je l'ai écrit dans l'intention de les publier. Tous les travaux qu'on fait moi et Léa dans 8 ou 80, c'est d'une certaine façon c'est déjà une publication puisqu'on crée une revue ensemble, et les textes sont publiés. Donc il y a quand même un désir pour moi, il y a des choses que je garde pour moi. Il a une écriture de l'intime, mais mon écriture de partage, elle est beaucoup plus présente. J'ai plus des matières même dans cette écriture de partage, pour partager, qui est l'écriture de l'intime. Après, c'est pas tout ce que j'ai écrit et pensant publier que je les publie. Quelquefois, les textes, ils passent par plusieurs modifications jusqu'à que je sois satisfaite pour qu'ils soient partagés avec les gens.
Et j'avais envie d'évoquer, il nous reste peu de temps, mais ce métier d'animatrice d'atelier d'écriture, tu exerces depuis un certain temps?
Je l'ai commencé en 2020, en faisant des ateliers en ligne. Je le faisais à ces moments-là, quelques ateliers en ligne. Inspiré notamment des boîtes de Pandora, ça, c'était un peu, ça, j'étais en plein construction de boîtes de Pandora et du coup ça m'aidait, les ateliers ça m'aidait à comprendre mon propre projet.
Et du coup comment s'organiser ces ateliers?
C'était des stages, c'était des trucs très ponctuels, donc j'ai donné un jour ou pendant un week-end entre 5 et 10 heures d'écriture. Donc c'est pour ça que c'est un week-end, c'était séparé de deux jours. Et en fait, j'avais un thème. Dans ces cas, comme je travaillais sur boîte de Pandora, on travaillait sur les sentiments. Et en fait, c'était entre une masterclass et un atelier. Donc j'ai expliqué une partie de ma recherche, parce que j'avais beaucoup de matériel à ce moment-là. Et je faisais des propos d'écriture à ce moment, à partir de tout ça. Aux participants et on crée comme ça.
Et comment tu, parce que là tu nous as beaucoup parlé de ta recherche, mais comment tu synthétisais en quelques mots la présentation de cette recherche à ces gens et en quoi ça les attirait?
Je pense que la synthèse de ma recherche, c'est plutôt écrire à partir des sentiments. Donc je posais quelques questions. Qu'est-ce que c'est un sentiment? Est-ce qu'un sentiment c'est traduisible ou pas? Comment on les sent chacun? Et du coup, en fait, j'ai exposé des petits morceaux comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est un sentiment? Je faisais une introduction sur des sentiments. Après, on a fait par exemple une liste des sentiments pour que chacun comprenne jusqu'où on va. C'est une énumération en fait, les sentiments. On a contact avec X nombre. Et plus on comprend les sentiments, plus on arrive à les identifier. Donc je faisais un peu cette différenciation entre émotion et sentiment. Et après, on défilait comme ça jusqu'à à comprendre la différence des sentiments en chaque culture. Notamment, j'ai reparlé des saudades et à ce moment-là, j'en avais C'était pas des brésiliennes, c'était un portugais à ce moment-là, mais il n'y avait pas que des brésiliennes, il y avait des portugais aussi, donc on a pu discuter de surtout ça.
Donc c'était en fait un atelier plurilingue.
Non, parce qu'il était en portugais.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, fala!
Fruto do lado, sambódromo, dos América Latina em pó. O que quero que pode até animar?
Flor do laço, sambódromo, dos América Latina em pó. O que quero que pode até animar?
Là, j'anime, en ce moment, j'anime des ateliers plurilingues.
Plurilingues. Et comment ça se passe, du coup, d'animer un atelier plurilingue?
Alors, ça, c'est génial. Déjà, je trouve que c'est super important d'avoir ça à Marseille, puisqu'on est dans une ville très multiculturelle. Donc, donner voix à toutes ces langues, pour moi, il y a quai du sens. Et du coup, j'ai des gens qui sont étrangers et qui écrivent soit en français, soit dans leur langue maternelle, soit dans d'autres langues. J'ai aussi des Français qui écrivent dans d'autres langues. Donc, notamment, il y avait une personne dans les derniers ateliers qui est française, une fille qui est française, et qui écrit en anglais. Et qu'elle s'est fait publier qu'en anglais. Elle n'est pas publiée en français. Donc, c'est très intéressant. Et donc, j'ai fait une proposition d'écriture. Les propositions, normalement, elles sont très sensorielles aussi. On va travailler sur la langue, on va travailler sur la voix, on va travailler sur la compréhension. Et la personne, elle peut écrire dans la langue qu'elle veut, au moment qu'elle veut. Donc, si elle fait un texte en italien et qu'après, elle veut faire un texte en français, pas de souci. C'est ce qui lui donne envie de partager.
Mais il y a des consignes.
Il y a une proposition. Je ne travaille pas avec l'idée des consignes dans un sens qui, pour moi, c'est un départ pour l'inspiration. Et ces départs-là, ils peuvent être aussi détournés. Il y a eu des fois qui ont travaillé sur les sons de la langue. Et il y avait une dame qui écrivait en français et elle était inspirée par toutes ces langues et tout. Donc, elle a commencé à inventer des langues. Donc, elle a écrit une langue inventée. Et donc, c'est très riche dans ce sens-là. Puisque ça passe aussi... Donc, il y a un moment d'écriture, il y a un moment des lectures. Et c'est que c'est très riche dans les moments de lecture, c'est que bon, moi je maîtrise beaucoup des langues, mais je ne maîtrise pas, par exemple, l'italien, je ne maîtrise pas toutes les langues. Donc il y a quand même quelque chose qui transfère, même si on ne comprend pas la langue, il y a une écoute. Et, politiquement parlant, je pense que c'est important d'avoir cette écoute, principalement dans cette ville, principalement dans ce contexte. Je pense qu'est d'écouter les gens parler, même si on ne comprend pas son texte à 100%, ça envoie déjà plein d'émotions, des sensations, d'images et tout. Quelquefois, la personne, elle est invitée à expliquer son texte, mais c'est que c'est très riche, c'est qu'on a souvent quelqu'un qui parle cette autre langue. Dans l'occasion, il y avait cette fille qui parlait en italien, et il y avait une autre fille qui comprenait l'italien, et du coup, elle fait un retour, parce que j'invite les gens à faire des retours sur les textes, sur leurs sensations, sur leurs sentiments, qu'est-ce qu'ils ont... aperçu du texte, comment ça les a touchés. Et du coup, cette fille, elle a un peu raconté sa relation avec l'italien à partir de textes en italien qu'une autre fille avait écrit. Donc, c'est très intéressant parce que finalement, on comprend quand même quelque chose parce que l'italien, c'est très proche du français. Donc, il y a des mots qui viennent. Ça donne la place à imaginer des choses sur les textes et de s'approprier du texte de l'autre personne aussi parce que je pense qu'il y a un côté quand on publie un texte ou quand on partage un texte, que les textes, il va être quand même aperçu différemment par la personne. Les textes, au moment où on les partage, ils ne nous appartiennent plus. Et les lecteurs, il y a 100% les droits de les prendre et de s'approprier de ces textes et de l'interpréter comme il veut et de voir des choses que nous, on n'a pas vraiment mis là-dedans, mais il va voir d'autres choses. Donc
à terme, en fait, c'est à l'issue de ces ateliers de faire une revue, la revue Frais, qui regroupe un certain nombre de textes issue de ces ateliers, si j'ai bien compris.
Alors, la revue Frais, elle était créée pour les ateliers d'écriture. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore une version plurilingue de la revue. Je pense que je ferai une édition qui est plurilingue, parce que je pense que ça serait plus intéressant. C'est deux démarches différentes quand même. Donc, j'ai les ateliers d'écriture qui je les fais tous les mercredis à la Maison pour tous de la Corderie. Je commence aussi cette année... deux versions numériques, donc une en français et une en portugais. Et j'ai les ateliers plurilingues, qui ça se fait une fois par mois à la Grande Librairie Internationale de Marseille, à Belzance. Et en fait, mon idée, c'est quand même d'avoir une édition qui est plurilingue, mais encore, qui fasse encore partie des frais.
Et est-ce que le travail des uns influence celui des autres en termes de contenu, mais aussi de signaux sonores?
À 100%. En fait, d'un côté, il y a des fois qu'on a des échos. Donc, je fais une proposition et il y a des textes qui parlent un peu de la même chose, qui se dialoguent, et ça, c'est déjà très impressionnant. Mais je trouve qu'à fur et à mesure, plus on écoute, plus on s'imprègne des choses qu'on trouve intéressantes chez l'autre. On apprend comment l'autre y fait et qui ça nous sort de nos habitudes, donc on a envie d'essayer aussi, on a envie de faire différemment. Donc plus on revient et plus on écoute les autres personnes lire leurs textes, plus notre écriture elle se transforme et elle devient plus riche puisqu'on voit d'autres possibilités qui des bases on n'avait pas. On sort vraiment de notre habitude d'écriture et on commence à écrire d'autres façons, à expérimenter des choses.
Donc, elle ne se dénature pas, elle garde sa nature initiale, elle ne fait que s'enrichir.
Oui, c'est l'objectif de l'atelier, c'est quand même que la personne elle retrouve sa voix. Donc, c'est-à-dire qu'elle comprenne quels sont ses points forts, où est-ce que ça lui amuse dans l'écriture, où est-ce que ça a du sens de faire ça. Et les plus intéressants, c'est vraiment l'effet qu'à partir d'une même proposition, on a des textes totalement différents.
C'est-à-dire que certains vont écrire un poème, d'autres une nouvelle, d'autres un extrait de roman
Oui, la forme, elle est souvent très libre. C'est très rare que j'impose une forme, seulement si je cherche à travailler quelque chose de très spécifique. Donc, par exemple, il y a des fois qu'on travaille des dialogues, donc il y a une forme qui est un peu imposée. Mais comme je dis, comme c'est des propositions et pas des consignes, justement, la personne, elle peut détourner ça. Donc... Si elle n'a pas envie d'écrire un dialogue, elle ne va pas l'écrire. Je ne peux pas imposer ça à personne et je pense que ce n'est pas l'objectif.
Donc, les gens qui viennent à tes ateliers recherchent une façon de s'améliorer, une autre approche de l'écriture, cherchent peut-être à publier, à devenir carrément écrivain, romancier, poète, où il y a de tous ces profils ou simplement des gens qui veulent, qui sont dans l'amusement créatif.
J'ai tout. J'ai tout. J'ai des gens qui ont déjà beaucoup écrit et qui sont déjà publiés et qui veulent continuer à faire des ateliers puisque c'est une source d'inspiration très puissante. Il y a des gens qui veulent se développer plus. Il y a des jeunes qui veulent que s'amuser et qui n'ont pas vraiment envie de se faire publier. Il y a des gens qui veulent découvrir d'autres choses. Donc il y a vraiment tout mélangé. Tout mélangé.
Ben, je te remercie. La définition de l'écriture, de l'acte d'écrire ou de l'écriture, vous la retrouverez sur le site qui sera indiqué dans la présentation du podcast. Mais j'avais envie de te poser une dernière question sur cette fameuse revue que tu écris avec...
Elia Terrat.
Voilà, exactement. Qui s'appelle Oito ou 80. D'ailleurs, d'abord, pourquoi ce titre qui est très étrange?
Alors... 8 ou 80, en fait, c'est une expression en portugais, ça veut dire 8 ou 80, qui, ça signifie tout ou rien. Donc c'est 8 ou 80, c'est tout ou rien. Et c'est une expression que j'en avais dit une fois à Elia, elle a dit, waouh, ça fait un super nom pour une revue et tout. On n'écrivait pas encore à la revue à ce moment-là. On avait déjà, on faisait beaucoup des ateliers entre nous, mais on n'avait pas encore créé la revue. Et en fait, on avait envie, on a transformé un 8 ou 80, puisque, bon, déjà, c'était un moment des tout ou rien pour nous. On s'est dit, bah, viens, on fait un truc, on se met vraiment dans l'écriture, on propose des choses, on veut voir un peu comment on peut expérimenter dans l'écriture. C'est une revue très expérimentale, une revue poétique très expérimentale. Il y a beaucoup de textes à quatre aimants, donc on s'est permis beaucoup de choses. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est un moment tout ou rien, viens, on est fait, il faut le faire. Donc, c'est un peu ça les noms. Et pourquoi 8 ou 80 Moi, je suis brésilienne, Elia, elle est belge. Et nous deux, on a vraiment quelque chose qui nous traverse à niveau de la francophonie, de s'approprier de cette langue, de cette culture, de cet état. Elle a vécu longtemps à Marseille, maintenant elle habite à Brest. Donc on a vraiment ces rapports de l'appartenance, du entre-langues, il y a quelque chose là-dedans, même qu'elle parle français puisqu'elle est belge. Mais ce n'est pas forcément les mêmes français, genre il y en a des changements.
Il y a quelques mots qui diffèrent, oui.
Et elle a des origines aussi allemandes, donc elle a vraiment une question liée à la langue aussi. Et du coup, on avait envie de créer un peu cette étrangeté entre les français et les portugais.
Elle parle aussi le portugais.
Elle parle un peu, pas beaucoup, mais elle avait une belle-mère qui parlait portugais, donc elle en avait des contacts depuis un moment déjà.
Il y a un peu de flamand aussi dans cette revue.
Non, de flamand, il n'y a. En tout cas, je ne pourrais pas identifier.
Si les langues sont traversées.
Il y a un peu d'allemand. Puisqu'elle parle un peu allemand, moi aussi, elle étudie puisqu'elle a vraiment ses côtés d'origine. D'ailleurs, les numéros 4 de la revue, elle s'appelle Tradução, on a mis en portugais pour créer une étrangeté. Et en fait, il y a des textes plurilingues dans cette revue, notamment en français, portugais, allemand, qui s'est construit, c'est très sonore, c'était une surprise cette revue parce que on s'est tellement amusé à le faire et c'est très sonore, c'est très poétique, ça nous amène dans plusieurs endroits.
Récit jumeaux.
Im quel deine Augen
avait vers la mer une haute fée sans prix.
Halt des Meer sein Versprechen.
Fadas em xícaras que reinavam reis.
Ein Herz, das Gewalt unter Menschen.
Un récit jumeau fait autre manche.
Ich bin du, wenn ich bin.
Ich bin, tu bin, ich bin.
Treib ich ein Traum von Raub.
Trago eu sonho de Raub.
Im quel deine Augen.
Avec la mer.
Haut comme les fées sans gré.
Sein Herz, Haus, Us, Ursus.
Un récit de Jean, autrui marchait.
X, bien tu, viens X, X, viens.
Trois bières, un train, fin robe.
Ici, Cardini Augen.
Merci.
Ah, merci beaucoup.
Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt.
Voilà arrivé à la fin de ce podcast. Toutes les informations concernant les sites internet, compte Instagram, revue de Samantha Shuva, ses coordonnées, sont à découvrir dans le texte qui accompagne ce podcast, que vous retrouverez sous peu en ligne.
Merci à Radio Galère. Thank you.